Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Belbic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Une semaine d'actualité vous a accompagné durant tout le mois d'août grâce à Chantal Leroux et à Amélie Beaucourt, qu'elles en soient remerciées. Nous commençons donc une nouvelle saison avec plus que jamais les reportages de la rédaction et nos invités. L'objectif de cette émission est de vous offrir quelques repères dans l'actualité, vous le savez, et d'échapper ainsi à la loi du présent en quelque sorte, en remontant le temps car les événements s'effacent vite de nos mémoires. Parfois saturé. Aujourd'hui, nous prendrons évidemment la route de Kaboul après le départ de l'armée américaine. Nous partirons également pour Beyrouth, Abidjan, Brazzaville et nous allons également parler de la Chine avec notre invité Pierre-Antoine Donnet, journaliste et auteur d'un ouvrage complet et incisif qui s'intitule « La Chine, le grand prédateur ». Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez aussi télécharger afin de l'écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré. Je vous conseille également de nous rejoindre sur l'application RFI Pure Radio. Avant d'écouter notre invité, partons en Chine, justement, où le gouvernement a annoncé qu'il allait interdire aux enfants de moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures par semaine, j'ai bien dit par semaine, aux jeux vidéo en ligne à Pékin lundi. Stéphane Lagarde.
Bonheur des parents, malheur des gamers, la décision du régulateur chinois fait débat, c'est le moins qu'on puisse dire ce matin sur le réseau Sina Weibo. En ligne ou pas en ligne, limiter le temps de jeu est une bonne chose, écrit une maman, mais pour Li, c'est une catastrophe. Je ne crois pas que jouer aux jeux vidéo puisse affecter mes études, nous confie cet étudiant à Nankin. Jouer pour moi est un moyen de socialiser avec les autres, dit-il. Cela m'aide à communiquer avec mes camarades de dortoir et puis 3 heures, c'est beaucoup trop court. Selon l'avis publié par l'administration de régulation, les mineurs n'auront le droit qu'à 1 heure de jeu, pas plus le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour éviter un contournement de l'interdiction, ils devront se connecter avec leur pièce d'identité. Une manière, disent les autorités, de lutter contre l'impact des écrans sur la santé, addiction, myopie et obésité. Ce nouveau règlement était attendu ou redouté. Début août, un média d'État parlait d'opium spirituel de la jeunesse, accusant les plateformes comme le géant du secteur Tencent de rendre les plus fragiles dépendants aux jeux vidéo.
Bonjour Pierre-Antoine Donnet.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef à l'AFP, spécialiste de la Chine. Vous avez été correspondant. Vous venez donc d'écrire cet ouvrage précieux qui s'intitule « Chine, le grand prédateur » avec une préface du grand sinologue Jean-Pierre Cabestan qui dit de votre livre qu'il est important et utile. Je suis d'accord avec lui. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Vous connaissez Stéphane Lagarde, je crois. C'est à inscrire dans une reprise en main générale.
Oui, tout à fait. Parce qu'en même temps de l'annonce de cette restriction pour les enfants, elle est accompagnée d'une reprise en main très large sur le plan politique et social, avec tout particulièrement l'introduction de la pensée Xi Jinping dès l'école primaire, ce qui montre bien où en est la Chine aujourd'hui.
Et c'est un mouvement continu qui s'accélère, en quelque sorte.
Tout à fait, absolument. Il y a, comme l'a dit récemment Xi Jinping, un retour à l'essentiel sur les valeurs fondamentales du Parti communiste chinois, à l'égard duquel les Chinois doivent faire preuve d'une loyauté totale.
Avec une lutte contre les GAFA, contre ces géants de l'Internet.
Oui, parce que justement, les GAFA commençaient à faire prendre de l'ombre au Parti communiste chinois. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jack Ma, qui est le grand milliardaire chinois, a été écarté de l'entreprise qu'il avait créée de commerce en ligne Alibaba.
Comment faut-il qualifier, Pierre-Antoine Donnet, le régime de Pékin aujourd'hui? Une dictature communiste?
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même pire que ça. On est en train d'assister à un pays qui se referme comme une huître sur le monde extérieur et qui est en train de reprendre à beaucoup d'égards les heures sombres du maoïsme. C'est l'idée de la grande marmite commune, le bol de riz en fer, c'est-à-dire « abat les riches ». On met à bas le slogan de Deng Xiaoping « Enrichissez-vous », qui en 1978 avait insufflé le désir de tous les Chinois de se remettre au travail et qui avait débouché sur le fait que la Chine, en moins de 40 ans, est devenue la seconde puissance économique du monde.
Ce qui est assez fascinant, Pierre-Antoine Donnet, c'est que plus d'1 milliard d'habitants soient à ce point contrôlés.
Oui, 1,4 milliard, tout à fait. Il y a 400 millions de caméras reconnaissance faciale dans les petites et grandes villes. Tous vos faits et gestes sont épiés, espionnés. Si vous sortez des clous, vous êtes automatiquement sanctionné.
Alors votre titre, c'est « La Chine, Chine, le grand prédateur ». C'est plus que jamais d'actualité à un moment où on constate que les matières premières sont plus difficiles à trouver en Europe, par exemple, hein, même pour les chantiers de travaux publics, que le gaz se raréfie parce qu'il y a une forte demande en Chine. Prédateur plus que jamais, là aussi.
Oui, prédateur plus que jamais. Vous parliez des matières premières. Ça me ramène à parler de la raison pour laquelle la Chine s'est rapprochée des talibans. La raison première, en fait, elle est économique et commerciale. Pourquoi ? Parce que le sous-sol de l'Afghanistan recèle quantité de métaux rares, le nickel, le lithium et bien d'autres. Et il y a dans le sous-sol de l'Afghanistan des milliers de milliards de dollars qui dorment.
On va parler de l'Afghanistan dans un instant, bien sûr. Vous écrivez « La Chine, de très loin, le premier consommateur et premier importateur de matières premières du monde et énergivore assoiffé, et d'autre part devenu le premier pays importateur de pétrole de la planète. »
Oui. Et j'ajouterais à cela que la Chine est également maintenant, depuis deux décennies, le plus grand pollueur de la planète. L'industrie chinoise, les centrales à charbon, émettent dans l'atmosphère 33% de la totalité de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre du monde.
D'ailleurs, John Kerry, qui était en visite en Chine ces derniers jours, s'est plaint, il est l'émissaire américain pour le climat, s'est plaint auprès des dirigeants chinois en disant qu'ils utilisaient trop le charbon.
Oui, à tel point d'ailleurs que Xi Jinping avait promis, il y a un peu moins d'un an, que la Chine parviendrait à l'équilibre en 2060, à l'équilibre entre ces émissions de gaz à effet de serre et ce qui permet de les annuler. C'est un projet qui est totalement irréaliste. Nous ne serons plus là, ni vous ni moi, pour constater si ce sera le cas ou non.
Sept jours dans le monde.
Pierre-Antoine Donnet, l'Afghanistan est encore au cœur de l'actualité, bien sûr, avec, dans la nuit de lundi à mardi dernier, le retrait du dernier soldat américain mettant fin ainsi à 20 ans de guerre. Écoutez ce reportage de Cyril Payen, quelques heures seulement après ce départ.
Aéroport de Kaboul, 31 août 2021. Depuis quelques heures, la ville est officiellement devenue la capitale de l'émirat islamique d'Afghanistan. Le tarmac de l'aéroport militaire est désormais entre les mains des forces talibanes.
Je suis ravi du retour de la discipline islamique. Le système des non-croyants qui nous ont envahis est terminé. Ils nous avaient dit qu'ils amenaient la démocratie et qu'ils allaient établir un système de gouvernance et de développement économique. Mais regardez, ils n'ont rien laissé. Ils ont tout détruit.
La piste est comme abandonnée. Il y a encore 24 heures, elle était le théâtre de l'un des ponts aériens les plus importants de l'histoire.
C'est ça l'héritage américain. Les leaders ont signé un accord avec eux. Eux ne respectent pas leurs paroles, mais nous si. Donc, on les a quand même laissés partir.
Pour les nouveaux maîtres du pays, tout reste à faire et la menace de leurs rivaux, du groupe État islamique en Asie centrale, pèse sur le pays.
Nous pensons et nous espérons que le départ des Américains d'Afghanistan va mettre un terme au projet du groupe État islamique. Nous espérons ne plus être les témoins d'une telle insécurité et d'une telle situation.
Les lieux portent les stigmates de combats violents et les soldats américains ne sont pas partis sans saboter ce qu'ils ne pouvaient emmener. Mais les talibans sont confiants, comme ce nouveau chef autoproclamé de l'aéroport qui vient d'arriver.
L'émirat islamique d'Afghanistan a des employés, du matériel professionnel. Heureusement, nous avons toutes les ressources qu'il nous faut. Avec eux, nous sommes confiants de pouvoir remettre en marche les avions.
Les talibans sont désormais aux commandes, mais aux commandes d'un pays au bord de l'effondrement. Après la guerre et les sacrifices pendant tant d'années, de nombreux et nouveaux défis attendent l'Afghanistan.
Et ce départ des forces américaines met donc fin à 20 ans d'une guerre dite asymétrique à New York, Lubna Anaki.
Les talibans vont payer le prix. C'est ainsi que George W. Bush avait lancé le 7 octobre 2001 les États-Unis dans leur plus longue guerre. Une offensive déclenchée après les attentats du 11 septembre avec pour objectif de détruire Al-Qaïda et de renverser le régime des talibans qui hébergeait Oussama Ben Laden. Opération baptisée « Liberté immuable ». S'ils sont vite chassés du pouvoir, les talibans réfugiés dans les montagnes continuent de se battre. La guerre aura duré 20 ans et coûté 2300 milliards de dollars à Washington, 2400 soldats américains ont également été tués, des milliers d'autres blessés. Côté afghan, des centaines de civils sont morts et des milliers ont dû fuir. En deux décennies, trois présidents américains ont succédé à George W. Bush avec à chaque fois la promesse de mettre fin à la longue guerre. Donald Trump a négocié l'accord avec les talibans. Joe Biden a supervisé le retrait final. Un retrait précipité, chaotique, sanglant. Et au final, la guerre se termine comme elle a commencé, avec les talibans au pouvoir.
Pierre-Antoine Donnet, avant de vous retrouver, précisons également que mardi, le président Joe Biden, qui subit ici la première épreuve, voire le premier échec de son mandat, s'est adressé aux Américains à Washington, correspondance de notre nouvel envoyé spécial permanent, Guillaume Nodin.
C'est un président déterminé et combatif qui s'est présenté devant les caméras. Après 17 jours d'une opération d'évacuation de très grande ampleur, marquée par un attentat meurtrier, Joe Biden a rappelé pourquoi il a décidé ce retrait.
Quand j'étais candidat à la présidence, je me suis engagé auprès des Américains à finir cette guerre. Aujourd'hui, je tiens cet engagement.
Car pour Joe Biden, la présence militaire américaine dans le pays n'était tout simplement plus justifiée.
À ceux qui veulent une troisième décennie de guerre en Afghanistan, je demande quel est notre intérêt national vital. Pour moi, il n'y en a qu'un. S'assurer que l'Afghanistan ne serve pas de base à une attaque contre notre territoire à nouveau.
Le terrorisme, voilà l'ennemi, et même sans soldats sur place, le commandant en chef prévient, l'Amérique peut encore frapper.
À ceux qui veulent du mal à l'Amérique, à ceux qui se lanceront dans le terrorisme contre nous ou nos alliés, sachez que les États-Unis ne s'arrêteront pas. Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas. Nous vous traquerons jusqu'au bout du monde et nous vous ferons payer le prix ultime.
En attendant, pour les quelques dizaines d'Américains et les milliers d'Afghans souhaitant encore être évacués, c'est désormais la voie diplomatique qui est privilégiée pour convaincre les talibans de tenir leurs engagements.
J'ajoute que des dizaines de femmes afghanes ont manifesté jeudi à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Les manifestantes ont voulu appeler au respect des droits des femmes. J'ajoute également que les talibans ont annoncé hier que la Chine va maintenir son ambassade en Afghanistan et va augmenter son aide, Pierre-Antoine Donnet. Il faut rappeler, c'est très important, qu'il y a une frontière commune entre la Chine et oui. L'Afghanistan. Elle est pas très longue, 70 km, 73, c'est ça. Mais il y a frontière.
Elle existe. Et pourquoi la Chine a décidé de reconnaître le régime des talibans? Il faut lire entre les lignes. La Chine considère que les États-Unis ont subi une débâcle insensée. Ils insistent beaucoup sur ce terme. Et en filigrane, le contexte, le Global Times, qui est le quotidien anglophone du Parti communiste chinois, dit, dans un message adressé à Taïwan, regardez ce qui s'est passé. Vous, Taïwan, pensez-vous qu'il y aura des GI pour mourir pour vous si la Chine vous envahit?
Parlons de Taïwan, qui est le contre-modèle, en fait. C'est l'autre Chine dans tous les sens du terme.
Taïwan, c'est d'abord, effectivement, le bastion de la démocratie dans le monde chinois. Le fait que ces bastions de démocratie dans le monde chinois existent montre bien que ceux qui avancent l'idée que la démocratie n'est pas faite pour la Chine ont totalement tort. J'ajouterais que la présidente de Taïwan, Mme Tsai Ing-wen, est très courageuse. Elle a été réélue pour un mandat de 5 ans au début de cette année.
J'ajoute que cette semaine, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a publié une tribune dans Le Monde, journal Le Monde, appelant à un retour de Taïwan comme représentant la Chine aux Nations Unies. Il faut rappeler que c'est la Chine communiste qui représente la Chine à l'ONU depuis 1971.
Oui, tout à fait. Je dirais simplement que c'est vrai que ce combat de Taïwan pour retourner aux Nations Unies prendra très 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 longtemps, dans la mesure où la Chine évidemment est absolument contre et qu'elle a noyauté tous les organes des Nations Unies jusqu'au dernier recours.
La Chine qui est de plus en plus présente par ailleurs, la Chine communiste, dans le système des Nations Unies. Mais il est quand même incroyable vu de loin qu'un pays de 22, quelques 23 millions d'habitants n'existe pas aux yeux de l'ONU. Les Taïwanais, qu'ils soient officiels ou visiteurs, ne peuvent pas entrer dans l'enceinte des Nations Unies.
Il y a un bureau de représentation de Taïwan à New York auprès des Nations Unies, mais qui n'a pas d'existence officielle. Elle est officieuse, mais elle est là.
C'est une situation qui est un casus belli, en fait. La tension est extrême.
La tension est extrême, mais pour reparler de Joe Biden, je dirais une simple parenthèse, je pense qu'il a eu tout à fait raison de retirer les troupes américaines de l'Afghanistan. Vous l'avez dit, c'était un coup monstrueux pour un résultat zéro. Ce qui s'est produit, c'est que le gouvernement afghan en place était corrompu jusqu'à la moelle. On pourrait en parler longtemps.
Corrompu jusqu'à la moelle. Alors, il faut préciser, puisque nous parlons des États-Unis, que l'ouragan Ida qui a dévasté la Louisiane était heureusement moins grave que prévu, mais il y a eu des dégâts considérables. Et il s'est transformé en tempête, et là, il a fait des dégâts à New York également. Et puisque nous parlons des États-Unis, il faut préciser qu'au Texas, rappelez qu'au Texas, une nouvelle loi interdit toute interruption volontaire ou médicale de grossesse après 6 semaines et autorise tout à chacun à poursuivre en justice une personne ou organisation qui enfreindrait cette loi. Et la Cour suprême des États-Unis a porté jeudi un coup sévère à ce droit à l'avortement en refusant de bloquer cette loi. Est-ce que la tension entre les États-Unis et la Chine peut dégénérer?
Écoutez, je me suis longtemps posé la question. L'affrontement est tel entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Si d'aventure Xi Jinping déclenchait une invasion de Taïwan, que se passerait-il? Y aurait-il ou non une troisième guerre mondiale? J'en suis arrivé à la conclusion que non, pour la simple raison que Xi Jinping, qui est quelqu'un de très intelligent, sait très bien que s'il tentait cette aventure, il se prendrait une pâtée épouvantable et que cela signifierait la fin du Parti communiste chinois. Pourquoi cela? Parce que, bien sûr, il y a la 7e flotte qui est là, mais elle n'est plus seule. Aujourd'hui, il y a le Japon. Le Premier ministre japonais et son ministre de la Défense ont dit de façon très claire que s'il y avait une invasion chinoise à Taïwan, le Japon ne resterait pas les bras ballants. Il y a aussi l'Australie qui serait impliquée, de même que la Corée du Sud et un peu plus loin, même l'Inde.
Il y a Taïwan, mais il y a d'autres sources de tension en mer de Chine.
Oui, tout à fait. La Chine clame sa souveraineté sur 4 millions de kilomètres carrés, selon un tracé en 9 points qui navigue à quelques encablures des Philippines, de l'Indonésie, de Singapour, de la Malaisie. Et cela déclenche évidemment une opposition de tous ces pays.
Partons pour le Liban qui n'en finit pas de sombrer, Pierre-Antoine Donnet. Liban où les désertions se font de plus en plus nombreuses dans l'armée. À Beyrouth, Paul Khalife.
Une patrouille de l'armée et de la police militaire a procédé ce lundi à une descente dans la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah à la recherche d'un déserteur. Quelques heures plus tôt, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Fahmi, a mis en garde contre la multiplication des désertions au sein des forces de sécurité. Le nombre de militaires et de policiers qui n'ont pas rejoint leur poste est gardé secret par les états-majors. Des sources de sécurité évoquent plusieurs centaines de défections depuis l'aggravation de la crise socio-économique ces dernières semaines. Les militaires, dont des officiers, mettent à profit les permissions pour partir définitivement à l'étranger ou rester au Liban sans rejoindre leurs unités. Le salaire d'un soldat vaut aujourd'hui 70 $ et celui d'un officier commence à 150 $, soit 10 fois moins qu'avant la crise. L'armée est de plus en plus sollicitée pour contenir les flambées de violence qui se multiplient partout dans le pays en raison de l'effondrement total. Le week-end dernier, elle est intervenue pour établir le calme après de violents affrontements accompagnés d'actes de vandalisme entre deux localités chrétiennes et chiites à 40 km au sud de Beyrouth. Pour freiner les désertions, l'armée a réduit les permissions, durci les sanctions et s'efforce d'assurer un minimum vital aux militaires.
Repartons en Chine, Pierre-Antoine Donnet. Après Shanghai et Shenzhen, le président chinois a annoncé jeudi la création prochaine d'une bourse de Pékin au service des petites et moyennes entreprises à Pékin. Retrouvons Stéphane Lagarde.
Retour du concept prospérité commune et redistribution des richesses, guerre contre les monopoles des géants de la tech, lutte contre les inégalités, le capitalisme aux caractéristiques chinoises avait du plomb dans l'aile ces derniers jours. Mais voilà que sur l'écran géant de la foire internationale des commerces et des services, Xi Jinping annonce la création d'un troisième marché boursier en Chine continentale, cette fois au cœur de la capitale chinoise. Sourire pixelisé sur les réseaux de ceux qui redoutaient un flashback au temps du socialisme d'avant-marché. La future place financière pourrait être une extension de la bourse d'actions existante des PME de Pékin, aussi appelée bourse des boursicoteurs, car fréquentée par des petits actionnaires souvent âgés. Une annonce qui entre aussi dans le cadre d'un nationalisme économique post-Covid, limitant les introductions en bourse sur les marchés étrangers et incitant au contraire les entreprises chinoises à lever des fonds localement.
Stéphane Lagarde parle de nationalisme post-Covid, c'est aussi votre avis? L'expression vous convient?
Oui, absolument. Reparlons juste quelques secondes de l'introduction, de la mise en service de cette bourse.
Oui, nouvelle bourse à Pékin. Oui.
Voilà, et je voudrais ajouter que parallèlement, il y a aussi la mise en route d'une crypto-monnaie chinoise. Et pourquoi tout ça? C'est parce qu'en fait, la citadelle chinoise est assiégée. Et cette crypto-monnaie chinoise est en fait un instrument pour tenter, désespérément, de lutter contre le dollar roi qui fait autorité dans le monde entier.
Mmh. Jusqu'où pourrait aller ce nationalisme, Pierre-Antoine Denet? Parce qu'on le retrouve dans tous les domaines. On parlait tout à l'heure d'Internet, protection des frontières électroniques et numériques. Là, c'est la protection des frontières financières. Jusqu'où cela peut-il aller pour un pays d'1,4 milliard d'habitants?
En fait, le régime chinois a encore un grand nombre de cartes à jouer. En particulier le fait que d'atelier du monde, la Chine est peu à peu devenue un laboratoire du monde. Et ça rabat les cartes, à tel point que lorsque le Covid est apparu, en France, on s'est rendu compte de la dépendance de la France à l'égard de la Chine. Les médicaments, 80% des médicaments français sont produits en Chine et en Inde. Progressivement, elle a pris conscience de cela et notre président Emmanuel Macron a décidé de prendre par le taureau par les cornes. Mais ça va très loin, parce qu'en fait, se greffe là-dessus aussi l'autonomie, l'indépendance pour les puces, les microprocesseurs. Mmh. Ça,
question très actuelle.
Hein. C'est la clé du futur. C'est là où se joue l'avenir de l'industrie du monde de demain. Mmh. Et là, c'est une autre carte que la Chine peut jouer.
Donc il y a cette menace que la Chine fait peser sur le monde.
Oui, cette menace. Mais là encore, je voudrais ajouter qu'il y a une prise de conscience générale dans le reste du monde sur le fait qu'effectivement, il y a cette menace et qu'il faut réagir.
Alors ce qui est étrange, ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé en Chine avec le début de cette épidémie de Covid-19. On ne sait toujours pas.
Bah, écoutez, je commence à penser qu'on ne le saura jamais. Pour la simple raison que le gouvernement chinois a menti depuis le début, qu'il a refusé la mise en place d'une enquête internationale sur l'origine du virus.
Alors il y a eu une enquête des inspecteurs des Nations Unies, mais ils n'ont pas pu voir ce qu'ils... Oui, de l'OMS, oui, de l'ONU via l'OMS, mais ils n'ont pas pu voir ce qu'ils voulaient voir, vraiment.
Absolument. Il y a eu effectivement une délégation de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est rendue sur place. Et sitôt de retour... Ils ont expliqué ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, on ne leur a rien montré. On leur a servi une soupe préchauffée qui était en fait les pseudo-enquêtes chinoises et qui ne menait à rien.
Il y a aussi un rapport américain qui n'est pas plus explicite.
Oui, parce qu'effectivement, ces chercheurs américains sont arrivés à la conclusion qu'on ne sait pas. On ne sait pas, pour la bonne et simple raison, que le gouvernement chinois ne veut pas qu'on sache. Mais c'est une très lourde responsabilité. Là, on voit que la crédibilité de la Chine est entamée.
L'Australie a même fait l'objet de critiques très dures de la part de Pékin pour avoir demandé une commission d'enquête digne de ce nom sur les origines du Covid.
Ce grand pays en superficie, mais ce petit pays en population, a été le tout premier à réclamer la mise en place d'une enquête internationale en Chine. En janvier 2019, c'est-à-dire quelques mois après l'apparition du virus. Et la réaction du gouvernement chinois a été immédiate. Elle a décidé de punir l'Australie. Elle a mis en place toute une série de représailles économiques et commerciales qui sont encore en place aujourd'hui. Mais le Premier ministre australien a eu le courage de résister.
Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
Nous connaissons.
7 jours en France.
Alors vous l'avez deviné, Pierre-Antoine Donnet, nous allons nous rendre à Marseille. Emmanuel Macron a dévoilé en effet jeudi son plan pour cette ville déclinée dans les secteurs de la sécurité, l'école, la rénovation urbaine, l'entrepreneuriat, les transports, la culture. Non sans arrière-pensée, Valérie Gasse.
Aider Marseille à réussir, ce n'est pas lui faire l'aumône, a dit Emmanuel Macron en préambule de son discours, comme pour évacuer d'emblée toutes les accusations de tentative de mise sous tutelle de la ville par l'État. Le président n'en a pas pour autant épargné les élus locaux.
Vous avez un problème avec vos personnels municipaux. L'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet. Et donc en même temps qu'on investit, monsieur le maire, moi j'attends de vous que vous réformiez.
Un coup de griffe auquel le maire de Marseille, Benoît Payan, a répondu du tac au tac.
Ce plan, on y travaille depuis des mois et des mois. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on en dévoilera le contenu exact. Le président de la République a décidé de faire les choses de manière sérieuse. Nous aussi.
Martine Vassal, la présidente de la métropole, a quant à elle semblé accepter les conditions de ce donnant-donnant, des aides contre l'engagement d'améliorer la gouvernance locale.
Oui, nous allons travailler à ce que la métropole soit plus efficace et plus de résultats.
Emmanuel Macron a décliné ses propositions, des aides pour environ 1,5 milliard d'euros. Et pour Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, cet argent est bon à prendre.
Si nous, on fait tout ce qu'il faut... Qui mettait sous moi.
Emmanuel Macron a déjà prévu de revenir mi-octobre, puis en février pour faire le suivi des annonces, histoire d'ajouter Marseille dans la case bilan du quinquennat avant l'élection présidentielle.
France, toujours, où depuis lundi, le pass sanitaire est donc obligatoire pour tous les salariés employés en contact avec le public dans les restaurants, notamment. Reportage à Paris d'Anne Verdaguer.
Un restaurant dans le 19e arrondissement de Paris, à l'heure du déjeuner. La clientèle se fait rare ces dernières semaines. En cause, une météo maussade, mais aussi la crise Covid qui perdure. Dans ce contexte, le patron Olivier accueille avec scepticisme la mesure qui consiste à obliger ses salariés à travailler avec un pass sanitaire.
Moi-même, je ne suis pas encore, j'ai pas encore mes deux doses de vaccin, donc ça prend du temps. En fait, c'est 15 jours... À chaque fois, donc mettre une date butoir comme ça, c'est un peu cavalier, je trouve, vraiment. Moi, c'est pas mon rôle de restaurateur de vérifier ni les clients, ni mes salariés. Être en mesure de mettre quelqu'un au chômage, ou je sais pas si c'est suspendu, ou en tout cas sans argent parce qu'il ne s'est pas fait vacciner, c'est quand même assez incroyable, je trouve. C'est du jamais vu, en fait.
Dans une rue un peu plus loin, le salon Beauté Coiffure, Inda travaille avec des personnes à risque à l'hôpital. Pour elle, il sera désormais également obligatoire de présenter un pass sanitaire.
C'est ma responsabilité de protéger moi-même la première et les personnes en deuxième. C'est très important, je vois que c'est très important.
Et pour Safia, sa cliente, c'est aussi primordial.
Si elle n'était pas vaccinée, je ne serais pas venue. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Ils ne vont pas s'aventurer à travailler en sachant est-ce qu'ils sont positifs. Donc oui, moi je suis plus ou moins rassurée, ça c'est sûr.
La loi prévoit que si le salarié n'a pas sa vaccination anti-Covid, il peut demander des jours de congé ou un changement d'affectation. Si c'est impossible, une rupture du contrat de travail sera envisagée.
Et je vous rappelle qu'à la fin du mois, le fonds de solidarité qui permettait aux entreprises de rester à flot durant le confinement va être supprimé, sauf dans certains secteurs. Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Pierre-Antoine Donnet. Nous parlons avec lui de la Chine. Il vient d'écrire « Chine, le grand prédateur », un livre publié aux éditions de l'Aube. Et j'ai sous les yeux un livre que vous avez écrit il y a quelques années et qui est édité en poche chez Folio, Gallimard, « Tibet, mort ou vif ». On va parler des droits de l'homme et de la Chine, qui est un vaste sujet dans un instant. Parlons des relations entre la France et la Chine. Il y a quelques semaines, quelques mois, le CSA, l'autorité de l'audiovisuel, a autorisé une chaîne de télévision chinoise à être diffusée en France. Mais il n'y a pas eu de réciprocité.
Alors, revenons un tout petit peu en arrière. La CGTN, c'est l'antenne de diffusion de la télévision chinoise à l'étranger. Donc, ils émettent par satellite. Ils ont été chassés du Royaume-Uni il y a 7 ou 8 mois. Pour la simple raison que le gouvernement britannique a déterminé le fait que cette chaîne ne respectait pas les codes déontologiques du travail de journaliste. Ils se sont invités en France. Ils ont fait la demande auprès du CSA pour pouvoir émettre à partir de la France. Personnellement, je me suis un peu impliqué dans ce dossier. Donc j'ai envoyé des messages au CSA en disant que quelque part c'est une honte et une ancienne de l'AFP qui malheureusement est décédée aujourd'hui m'a répondu: Pierre-Antoine, Nous n'avions pas le choix parce que cette demande devait être acceptée de façon automatique pour la simple raison que les émissions se font sur un satellite européen. Mais nous serons vigilants s'il est prouvé qu'il y a des écarts sur le plan déontologique, nous montrons un dossier pour les interdire. Aujourd'hui, il y a 200 ou 300 journalistes, techniciens, preneurs de son qui travaillent pour la CGTN en France. J'ajoute que l'audience de la CGTN en langue française est extrêmement réduite. Donc leur influence est marginale.
Et donc j'insiste, Pierre-Antoine Donnet, sur cette réciprocité. Nos amis de France 24, nous sommes dans la même maison, attendent toujours l'autorisation de les mettre en Chine.
Mais tout à fait. Donc effectivement, il n'y a pas de réciprocité. Et je trouve ça inacceptable, intolérable.
Alors, quel est l'état des relations entre la Chine et entre la France et la Chine ? Je me souviens de propos de l'ambassadeur de Chine à Paris qui était assez sévère avec la France.
Son Excellence Lou Chaillé, ambassadeur de France à Paris, fait partie de ces diplomates qu'on a baptisés les loups combattants. Il part du principe que la Chine aujourd'hui est décomplexée. Elle veut dire au monde ce qu'elle veut dire, de façon parfois autoritaire. Et donc, son Excellence Lou Chaillé, pour reparler de lui, en effet, s'est permis plusieurs incartades qui lui ont valu un blâme de la part de notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian. L'un de ses faux pas calculés a été de dire que le personnel soignant des EHPAD avait laissé tomber les malades et s'était retiré des EHPAD, ce qui est scandaleux.
Donc des propos assez sévères. Il y a d'un autre côté des avocats de la Chine en France. Je pense notamment à un ancien Premier ministre.
Vous pouvez dire son nom ?
Jean-Pierre Raffarin.
Voilà. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, dans mon livre, j'en ai fait une note de bas de page parce que j'ai considéré que ça n'en valait pas plus. Je trouve que l'itinéraire de ce monsieur, qui pour moi est un sinistre sire, devrait ouvrir les yeux un certain nombre de nos hommes politiques et de nos dirigeants aujourd'hui.
Alors parlons de la Chine et des droits de l'homme, Pierre-Antoine Donnet, vaste chapitre. J'ai sous les yeux donc votre livre, Tibet mort ou vif. On peut ajouter maintenant le Xinjiang, les camps de rééducation. Est-ce que ça va passer par pertes et profits pour l'Occident ?
Absolument pas. Je crois que là aussi, vous savez, c'est devenu un cas de conscience qui se passe en Chine. Ce cas de conscience nous interpelle tous les jours. Le Tibet souffre de cette présence Han, de souche chinoise, depuis l'invasion du Tibet en 1950, que à l'époque Mao Tse-tung avait présenté comme étant une libération pacifique du Tibet contre le servage. Ce qui s'est passé ensuite, ça a été une lente agonie, des pillages de monastères et de temples partout, en particulier pendant la révolution culturelle. Donc nous avons vu là-bas le laboratoire de ce qui se passe aujourd'hui contre les Ouïghours au Xinjiang.
Oui, il faut en parler quand même des Ouïghours, il faut en parler et en reparler.
Ah, tout à fait, on a un peu oublié le Tibet, mais effectivement on parle de plus que jamais des Ouïghours. Et je considère qu'il y a là une erreur stratégique qui a été faite par Xi Jinping. Des documents officiels chinois montrent de façon irréfutable que c'est lui qui a été le chef d'orchestre de cette politique de répression contre les Ouïghours à partir de 2015, pensant que ça ne se saurait jamais à l'étranger. Or voilà, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, tout le monde en parle, à tel point que le Parlement canadien, le Parlement britannique, le Parlement néerlandais ont adopté des textes de loi qualifiant cette politique répressive de génocide.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Nous allons parler de l'Afrique maintenant, Pierre-Antoine Donnet, c'est notre adresse électronique. Retour de vos messages donc et de nos petites dédicaces et dédicaces à nos auditeurs fidèles sur le continent africain. Un salut aujourd'hui donc à Adam Kara à Ouaga, à Awal, à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, à Norbert, à Sedje au Bénin et à Théodore à Missinko-Toviklin, toujours au Bénin. Bonjour également à Lai Touré, à Youssoufa à Dakar, bonjour à Ba à Conakry et à Abdafrika à Dalaba, toujours en Guinée, à Jonathan à Mboujimani en RDC. Enfin, je salue un auditeur haïtien, John, qui est enseignant à l'Université d'État d'Haïti.
7 jours en Afrique.
Nous prenons donc le chemin du continent africain, Pierre-Antoine Donnet. On va parler de la Chine et de l'Afrique, les relations entre la Chine et l'Afrique dans un instant. J'ai retenu cette semaine trois sujets qui parlent de la vie telle qu'elle va sur le continent, des sujets dits de société. En Côte d'Ivoire d'abord, une émission de télévision diffusée en direct cette semaine a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. L'animateur de la chaîne privée NCI avait invité en effet un ancien détenu condamné pour viol à faire une démonstration d'une agression sexuelle sur un mannequin en plastique, accompagné par les rires et les applaudissements de l'animateur et du public aussi. Hier, Yves de Mbella a été condamné à une peine de prison avec sursis de 12 mois et une amende de 3 000 €. Une victoire pour les associations ivoiriennes de lutte pour les droits des femmes qui luttent intensivement ces dernières années contre la culture du viol. À Abidjan, le reportage de François Ferkataji.
L'affaire de la NCI a ravivé le débat sur la culture du viol en Côte d'Ivoire. Megan Boho, présidente de la Ligue ivoirienne des droits de la femme, se bat depuis 3 ans au sein de cette organisation contre la banalisation des crimes sexuels.
Quand on parle de culture du viol, d'autant pense que ce sont des personnes qui sont dans les villages, qui ne sont pas éduquées. La culture du viol n'a rien à voir avec le niveau d'études. Et voir qu'une émission a été pensée, réfléchie, aller chercher un ex-violeur, l'amener sur la place publique, chercher un mannequin, ça montre déjà une légèreté de la télévision. Parce qu'on se dit que ça va choquer des personnes, mais non, c'est passé.
La nouvelle génération de féministes engagées dans le débat public en Côte d'Ivoire est rapidement montée au créneau après l'émission de la NCI jugée outrageante. C'est également il y a 3 ans que Bénédicte Johann a créé une organisation de lutte pour les droits des femmes, Stop au chat noir, du nom de cette expression utilisée en Côte d'Ivoire pour définir le viol.
C'est vachement utilisé dans nos conversations, c'est très facile de dire j'ai fait chat noir, donc en fait on dit j'ai violé quelqu'un, donc ça fait partie en fait de la culture du viol, ça devient normal en fait de dire j'ai fait chat noir.
Grâce à ce travail de fond des organisations, Anne-Laetitia Conan, militante féministe et étudiante, estime que les lignes sont actuellement en train de bouger dans le pays.
Il y a quelques années, ça n'aurait pas suscité cet engouement-là. Donc du coup, je pense que ça change. Si on dérange, c'est que quelque part, c'est en train de changer.
Les organisations féministes se félicitent de la condamnation de l'animateur, mais demandent désormais une réparation de la chaîne NCI qui pourrait passer par la programmation d'une émission consacrée aux violences sexuelles.
Parlons de toute autre chose maintenant et partons pour le Congo afin d'évoquer la question de l'énergie, cette fois si importante en Afrique, et une pénurie d'essence chez un producteur de pétrole. Reportage à Brazzaville de Loïcia Martial.
Dans cette station-service située non loin du boulevard Alfred Raoul, la longue file de voitures s'étend sur plus de 100 mètres. Arrivé sur les lieux aux environs de 13 heures, Joël, un taximan, la trentaine révolue, n'était toujours pas servi à 18 heures.
Ça nous perturbe, c'est un manque à gagner pour nous, quoi. Y compris nous et les patrons.
Dans les stations qui ont encore de l'essence, les automobilistes sont à la merci des pompistes qui leur exigent des pourboires afin de les servir dans les bidons et non directement dans les véhicules du fait de l'affluence.
C'est dans les bidons, ils prennent 20 000 dans le bidon de 25 litres, parfois 18 000.
Or, le prix normal est de 15 000 francs CFA. Brazzaville ne passe jamais une année sans connaître de pénurie. Des conducteurs jugent la situation paradoxale parce que le pays fait partie des 4 premiers producteurs de l'or noir. Au sud du Sahara.
Même un parent qui est pasteur, ses enfants ne peuvent pas être dans les normes comme lui. Donc c'est comme le pays, un pays producteur du pétrole, mais ça nous manque. On ne peut rien, mon frère.
Officiellement, la pénurie est due à la faible capacité de production de la raffinerie nationale, qui ne couvre en réalité que 50% des besoins, estimés à 1,2 million de tonnes par an. Il ne nous est pas attribué le rôle de masquer la réalité, mais de tout faire pour trouver une solution pérenne, a assuré récemment Raoul Ominga, PDG de la Société nationale des pétroles du Congo.
Pierre-Antoine Donnet, avant de vous retrouver, je vous propose une étape en Guinée maintenant avec une baisse du prix, oui, une baisse du gaz domestique depuis mercredi, Amélie Tulé.
Jusqu'à présent, chaque opérateur fixait le prix de ses bouteilles de gaz, un produit relativement peu utilisé en Guinée, principalement consommé par une classe moyenne et urbaine, pouvant acheter des bouteilles de 12 kilos devant être raccordées à une cuisinière. Wan Mariam Sanogo est directrice de Kamagaz et porte-parole des opérateurs gaziers en Guinée.
Malheureusement, il y a certains qui pensent que utiliser le gaz, en fait, c'est un luxe. Donc avec ce bas prix, on espère que le maximum de population pourra accéder au gaz. Donc c'est pourquoi peut-être on pense qu'avec cette homologation, ça va considérablement changer.
Un prix issu d'une négociation initiée par les autorités guinéennes qui veulent, disent-elles, rendre le gaz plus accessible pour réduire la coupe du bois utilisé en cuisine. Un objectif applaudi par Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée.
Pour nous, c'est extrêmement important qu'on amène un peu plus, on va dire, les consommateurs
à venir vers le gaz pour ne pas aller vers le charbon, parce que là, ce serait, ça va avoir un impact négatif sur la déforestation, etc., etc.
Pour obtenir cette baisse du tarif du gaz en bouteille et mettre d'accord les distributeurs, des facilités et allègements de charges ont été octroyés. L'encadrement du prix du gaz butane se fait déjà dans plusieurs pays voisins de la Guinée, comme le Mali ou la Côte d'Ivoire.
Et puisque nous parlons de ressources pétrolières ou d'énergie, j'ajoute que le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé mercredi une importante découverte de pétrole et de gaz naturel. Le gisement se situe à 1200 mètres en profondeur et à 60 kilomètres au large des côtes près de la frontière avec le Ghana. L'actualité africaine, c'est aussi au Nigeria, l'enlèvement de 70 lycéens dans la ville de Kaya, dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. C'est la suite d'une longue série d'enlèvements qui frappe cette partie du Nigeria depuis plusieurs mois. On en a parlé dans cette émission. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Antoine Donnet. Nous parlons de la Chine avec lui. Chine qui s'intéresse depuis très longtemps à l'Afrique. Maintenant, vous écrivez, Pierre-Antoine, que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique sont passés de 3 à 170 milliards de dollars entre 1995 et 2017. Et depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique devant les États-Unis. Les chiffres sont parlants.
Oui, tout à fait. On en est arrivé où les Chinois sont tellement implantés en Afrique qu'ils sont en train de chasser les anciens colons, qu'ils soient français ou britanniques. Aujourd'hui, la situation est la suivante, en quelques mots. Il y a à peu près 1 million de Chinois qui sont installés sur le continent noir. Ils y font du commerce, ils ouvrent des magasins. Mais au-delà de cela, le plus important, c'est le pillage des matières premières africaines, du bois des forêts africaines. Tout cela est articulé comment ? La Chine propose à ses interlocuteurs africains des prêts à taux réduit, sans s'inquiéter du tout des questions de droits de l'homme. La Chine ferme les yeux là-dessus, alors que les prêteurs de deniers occidentaux ne font pas pareil. Et on en arrive à une situation où beaucoup de ces pays africains, mais également en Asie du Sud-Est et ailleurs, se retrouvent un jour dans l'incapacité de rembourser leurs dettes. Ce phénomène a pour nom le piège de la dette. Qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, les négociateurs chinois viennent trouver leurs partenaires africains ou autres et en disant, écoutez, c'est très simple, vous avez un choix unique, c'est de nous donner un bail emphytéotique de 99 ans sur des ports, des voies ferrées, des aéroports, des infrastructures. Ça aussi, ça a un nom. C'est une perte de souveraineté. Et aujourd'hui, le peuple africain, de même qu'ailleurs, est en train de comprendre ce qui se passe et de refuser ce scénario. Mais pour certains, il est trop tard.
Alors vous parliez de pillage. Cette semaine, Pékin a condamné, je cite, « toute exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, République démocratique du Congo ». C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de Chine à Kinshasa sur Twitter, sur fond d'accusations d'activités opaques d'entreprises chinoises en RDC. Pas très étonnant dans ce contexte alors.
Non, pas du tout. Mais vous savez, je crois qu'on est habitué maintenant au double langage de la Chine, enfin du gouvernement chinois, parce que je ne voudrais pas mélanger le gouvernement chinois et le peuple chinois,
bien sûr,
pour qui j'ai la plus grande admiration. Mais ce double langage, il est connu depuis maintenant longtemps. D'un côté, le gouvernement chinois présente la Chine comme étant un pays vertueux, qui remplit ses obligations à l'égard du reste du monde. Et d'un autre côté, il y a la réalité des choses sur le terrain.
Il y a d'ailleurs un mouvement de contestation de cette présence chinoise, parfois en Afrique.
Absolument, en Afrique et ailleurs.
Certains pays d'Afrique.
Et cela nous amène à parler des routes de la soie, qui est en fait... sans commune mesure avec les routes de la soie du 13e, 12e, 11e siècle. Aujourd'hui, c'est considérable. C'est des millions de milliards de dollars que la Chine investit. Là aussi, pourquoi ? Dans le seul but de lui ramener des capitaux, des bénéfices et surtout, avant toute chose, une influence politique.
Vous dites, vous écrivez, vous nous rappelez dans ce livre qui est très riche, Pierre-Antoine Donnet, que quelques 138 pays... c'est-à-dire une grande partie des pays du monde, ont signé des accords avec la Chine dans le cadre de ce projet pharaonique des routes de la soie.
Oui, absolument.
Il s'agit, il faut rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit pour la Chine de pouvoir exporter par des routes sécurisées, comme on dit aujourd'hui, et de pouvoir, dans l'autre sens, s'approvisionner en matières premières.
Voilà, 138 pays, jusqu'au cœur de l'Europe. La Grèce a cédé le Pirée. L'Italie a cédé deux ports névralgiques de l'Italie. Donc, c'est allé très loin. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là aussi, il y a une prise de conscience, d'un côté. Et d'un autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que les autorités chinoises ne peuvent plus financer aujourd'hui les routes de la soie. Pour une raison toute simple, c'est que la Chine est extrêmement endettée. Et des millions, des milliards de dollars. Elle n'a plus les capacités de financer. Donc là, on a une espèce de goulot d'étranglement qui marque les limites des routes de la soie.
Il faut dire un mot seulement sur Hong Kong. Nous sommes journalistes tous les deux. Nous avons une pensée pour les journalistes de Hong Kong.
Oui, oui, bien sûr, absolument. Moi, j'ai une pensée toute particulière pour une collègue de l'AFP qui a été recrutée dans les années 60 et qui s'appelle Claudia Mo, qui a été arrêtée il y a 6 mois, qui depuis est maintenue au secret dans les geôles chinoises à Hong Kong, qui reçoit la visite un quart d'heure par jour de sa famille et également du cardinal Joseph Wu, de Hong Kong, qui vient lui apporter son soutien.
La Chine nous oblige à nous poser des questions sur la valeur de nos idées, sur l'idée d'universalisme, en quelque sorte, des valeurs.
Là, je crois que nous touchons au cœur du problème.
Y a-t-il pour la Chine des valeurs universelles ? Visiblement non.
La Chine a sa propre définition des droits de l'homme. Cette définition, elle est très simple. Manger avant d'être libre. Ce concept, il existe depuis des siècles et des siècles. Et le gouvernement chinois le met en avant comme étant sa conception des droits de l'homme. En 1948, au lendemain de la guerre, la Chine de Chiang Kai-shek, dont des nationalistes chinois, avaient adopté l'ensemble des valeurs universelles adoptées par les Nations Unies. Aujourd'hui, les autorités chinoises empruntent le chemin exactement inverse.
Or, les Chinois mangent aujourd'hui, donc ils peuvent passer à autre chose.
Pas tout à fait. Vous savez, l'unique légitimité du Parti communiste chinois aujourd'hui, c'est d'avoir sorti la population chinoise de l'extrême pauvreté. Les derniers centaines de millions de Chinois qui s'en sont extraits, cela a été annoncé avec triomphalisme par le gouvernement chinois. Mais regardons là aussi entre les lignes. Il y a aujourd'hui des écarts de richesse considérables entre les pauvres d'un côté, c'est vrai qu'ils mangent à leur faim, et les ultra-riches de l'autre. Il y a des centaines de millions de Chinois qui sont au bord de la route, qui ne participent pas à ce triomphe économique.
Merci Pierre-Antoine Donnet. Il faut lire votre livre qui donne à réfléchir et qui s'intitule « Chine, le grand prédateur ». Il est publié aux éditions de l'Aube et il est préfacé par Jean-Pierre Cabestan. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle saison du magazine Idées. Elle a d'ailleurs commencé dimanche dernier, cette nouvelle saison, avec une émission sur Henry Kissinger et la réelle politique. Nous parlerons demain de Tocqueville, le penseur de la démocratie, et pas simplement en Amérique, avec notre invitée, la grande spécialiste de ce grand esprit, Françoise Mélogneau. Idées chaque dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris, en heure d'été. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, retour à l'actualité de ces dernières heures sur RFI.
À l'heure sur